Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
J'étais à la fois la plus heureuse du monde et à la fois la plus perdue du monde, je pense.
Des questionnements, des remises en question, des doutes, une nouvelle organisation à trouver. Finalement, la crise d'adolescence de la femme qui devient mère. Hein.
Je pense que j'ai pleuré pendant 3 mois à la naissance de mon fils. Je trouve qu'on prépare à l'accouchement, mais on prépare pas du tout à l'après.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Bonjour Amandine.
Bonjour Mathilde.
Je vous en prie.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Amandine ?
Alors aujourd'hui, on va parler de l'équilibre entre la vie de maman et la vie de femme.
Alors, comment ça se passe pour vous, cette question de l'équilibre entre les deux ?
Eh bien, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a l'équilibre parfait, qu'il se manifeste et qu'il écrive rapidement un livre, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de faire le moins pire possible, en fait, et surtout d'essayer d'être le plus organisé possible en amont pour éviter les couacs.
Comment vous avez fait pour... ou qu'est-ce qui est difficile pour vous dans... cette façon de trouver l'équilibre.
La maternité, pour moi, c'est pas un... Enfin, je veux dire, j'ai pas de manque lié au fait d'être beaucoup avec mes enfants. En fait, c'est quelque chose qui m'épanouit vraiment. Donc, j'ai pas vraiment de besoin très fort par rapport à mon rôle de femme, je dirais. Enfin, j'ai pas de manque vraiment par rapport à ma vie d'avant. Mais en revanche, j'essaye de m'octroyer des moments pour moi quand je peux. Ces moments sont parfois ponctués de quelques interruptions des enfants, mais j'essaye quand même de les garder et de cloisonner vraiment, enfin, en tout cas les moments où je suis au bureau, de vraiment sortir de chez moi et aller au bureau, et ensuite quand je rentre à la maison, d'éviter du coup de retravailler, en tout cas quand je suis avec les enfants. Pour qu'il y ait un peu un cloisonnement entre les deux.
Oui, donc là, vous dites bien de partimenter votre vie professionnelle et votre vie de famille.
Exactement. Après, moi, j'ai une vie professionnelle qui fait que je suis souvent avec mes enfants à des événements. Donc là, évidemment, on est tous ensemble. Mais les moments où je suis vraiment derrière mon ordinateur en train de travailler, je le fais ça au bureau. Et du coup, à l'inverse, les moments où je suis en train de coucher les enfants, je suis sans mon téléphone, à 100% avec les enfants.
Votre vie professionnelle a toujours été comme ça, en incluant vos enfants ?
Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai changé d'ailleurs. Parce que moi, j'ai travaillé 10 ans dans les cosmétiques de luxe, dans des grands groupes en marketing opérationnel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai fait 2 congés maternité dans une société comme ça. Et à chaque fois, mes congés mat ont duré 1 an parce qu'en fait, je supportais pas de quitter mes bébés. J'avais vraiment envie de les sentir contre moi. Du coup, ensuite, j'ai changé de cap et j'ai monté un projet personnel. Et en fait... avec ce nouveau projet et la flexibilité qu'il m'apportait, je me suis rendu compte qu'en fait, au bout de 3 semaines après la naissance de mon 3e enfant, j'étais debout, sur pied, en train de monter un pop-up sans aucun problème. Et en fait, je réalise que si on laissait plus de flexibilité, alors c'est un peu utopique, mais si on laissait plus de flexibilité et le choix aux femmes sur la manière dont elles veulent gérer leur maternité et leur retour de maternité, je pense que tout le monde serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus heureux.
Comment cette décision de changer d'une vie salariée avec un certain confort à une vie d'entrepreneuse, comment ça s'est fait pour vous ?
Alors pour moi, la vie de salarié, ce n'était pas confortable. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai pris énormément de recul par rapport à ce que je faisais, qui était quand même une fonction marketing, donc assez superficielle. J'avais du mal avec ça, avec le fait de passer beaucoup de temps au travail pour des choses qui finalement sont très superficielles, alors que j'avais qu'une envie, c'était quand même de profiter plus de mes enfants. Donc en fait, j'avais envie de monter un projet, mais je n'avais pas d'idée. Alors qu'il y a des gens qui ont des idées mais qui n'osent pas se lancer. Moi, je voulais vraiment partir, mais je voulais me lancer, mais je n'avais pas d'idée. Et puis, le projet a mûri au fur et à mesure pendant mon deuxième congé maternité pour ma fille. J'ai eu une idée. J'ai décidé de prendre un congé parental, du coup, pour tester cette idée. Et puis, comme ça avait l'air de prendre assez bien, en fait, j'ai quitté mon job et j'ai lancé mon projet.
Comment est-ce que ça a été compliqué pour vous voilà, d'assumer ce choix ? En tout cas, vous dites que ça a été quand même un processus de réflexion. C'est le fait de devenir mère qui vous a fait voir votre vie professionnelle aussi d'un autre œil, voilà, que ça perdait de sa substance ou de son sens ?
Alors moi, clairement, le monde du travail en France, ça a toujours été un problème, surtout dans les cosmétiques. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout politique, donc j'avais vraiment du mal à m'en sortir en fait. J'aimais mon job, mais pas à 100%. Il y avait des choses que je n'aimais pas forcément. Donc, je sentais que ce n'était pas forcément là-dedans que j'allais m'épanouir. Mais c'est clairement la maternité qui m'a donné l'élan pour sauter le pas. Et puis, c'est autour de la maternité que j'ai créé mon nouveau travail aussi. Donc, voilà, vraiment tout ça, je dirais que c'est la maternité qui m'a permis de changer.
Donc, vous, la maternité a ouvert plein de portes, plein de possibilités.
Exactement.
Aujourd'hui, du coup, voilà, avec ce nouveau travail dans lequel vos enfants sont, j'allais dire, impliqués, en tout cas présents, vous disiez tout à l'heure, vous compartimentez, vous arrivez quand même à prendre du temps pour vous. Comment vous arrivez à faire ça ?
J'ai jamais dit que c'était parfait. Hein. Par exemple, le soir, avec mon mari, on essaye de faire du yoga. Sauf que donc, je suis censée coucher les enfants avant. Évidemment que ça ne marche pas. Évidemment qu'il y a le bébé qui pleure parce qu'il n'est pas content. Évidemment que mon fils de 6 ans vient nous voir toutes les 5 minutes et râle. Mais tant pis, c'est comme ça, on le fait. En fait, j'attends pas que les moments soient parfaits. J'essaye juste de faire comme je peux, de m'octroyer du temps pour moi. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est bien quand même et c'est toujours ça de pris. Ou je fais de la gym aussi à la maison le matin avec mon bébé à côté de moi. Donc bon, parfois je suis déconcentrée. Il y a des moments où j'ai pas eu l'impression de profiter pleinement de ce que je faisais. Mais la plupart du temps, ça se passe bien et j'arrive à le faire. Alors oui, effectivement, ce n'est pas des moments 100% pour moi, mais c'est quand même des moments où je suis vraiment centrée sur moi-même et où je fais quelque chose pour moi. Après, j'ai la chance d'avoir un métier où je suis invitée assez régulièrement à des présentations presse, notamment de marques de cosmétiques. Et on me propose des massages du visage ou de tenter des séances de méditation. Et là où avant, je disais, ah ben non, j'ai pas trop le temps, j'ai besoin de travailler. Quand je sens que j'en ai besoin, franchement, je me dis oui, ok, j'y vais, je vais le faire et je vais prendre ce temps pour moi. Et je sais que ce sera jamais du temps perdu parce que ça me permet ensuite de repartir plus forte.
Vous autorisez ?
Je m'autorise. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, je suis partie faire une fugue en Italie avec une personne formidable qui s'appelle Alice Chéron, qui organise ça en fait en groupe de femmes qui ne se connaissent pas. Et là, pour le coup, c'est mon mari qui a dû donner son go parce qu'il a assumé de garder les enfants. Mais lui aussi sait que me laisser du temps pour moi, c'est aussi retrouver quelqu'un de rempli d'énergie et prêt à repartir, rebooster au retour. Donc voilà, parfois, il faut aussi savoir s'octroyer ce temps, même si ça implique quelques sacrifices.
Quelle est la place, justement, de votre mari dans votre organisation ? Voilà, quel est son rôle ? Est-ce qu'il est impliqué ou pas ?
Alors, mon mari intervient quand on lui demande d'intervenir. J'ai appris avec le temps à être un peu plus spécifique sur mes besoins. Et voilà, quand il y a quelque chose qui coince, quand moi, je fais trop de choses, on en parle et on essaye de trouver ce qui peut nous convenir à chacun et ce qui peut me permettre, moi, de me délester de certaines choses qui sont un peu, bah, qui prennent du temps ou qui peuvent me frustrer. Parce que, notamment le matin, lui arrive à prendre un petit déjeuner avec un espèce de bowl de fruits coupés en 10 avec son granola, ses céréales, et à partir et limite se sécher les cheveux, se donner un petit coup de brushing avant de partir, alors que moi je pars sans petit déj, les cheveux mouillés, à moitié habillée. Donc à un moment, voilà, on s'est dit, ça va pas être possible en fait, il va falloir que tu en fasses un peu plus. Et donc on essaye de, on discute sur ce qu'il y a à faire, et puis on essaye de voir là où lui peut intervenir facilement.
Et du coup, au niveau de la répartition de la charge mentale, est-ce qu'il y a une répartition ?
Ah non, il n'y a aucune répartition. Non, c'est moi qui ai toute la charge mentale. Je peux éventuellement lui déléguer des rôles, mais il n'y a pas de répartition de la charge mentale. Pour donner un exemple, je lui ai demandé s'il pouvait s'occuper d'acheter un sandwich pour mon fils le mercredi, parce qu'en fait, il déjeune à l'école, mais il ne peut pas aller à la cantine parce qu'il a un atelier. Enfin bon, bref. Donc, il m'a dit oui, ok, pas de problème. En revanche, est-ce que tu peux me le rappeler, s'il te plaît, tous les jeudis matin ? Donc, voilà, je suis délestée de quelque chose, mais je garde ma charge mentale.
Comment vous le vivez, ça ? De devoir, voilà, tout gérer, rappeler à votre mari ce qu'il faut faire ?
Bah, ça dépend des jours, comme tout le monde. Quand je suis en forme, j'ai l'impression d'être une warrior et je suis fière de moi. Et puis, quand je suis pas en forme, bah, on en reparle pour essayer de voir ce qu'on peut faire différemment.
L'accès à la maternité, alors vous dites, voilà, ça a bouleversé votre vie professionnelle puisque vous avez changé du tout au tout. Est-ce que ça a bouleversé d'autres aspects de votre vie ?
Alors, dans ma famille, pas vraiment. Au niveau relationnel, je pense qu'au début, je me suis beaucoup rapprochée de jeunes mamans et que ça a créé des liens assez forts. Et finalement, je me rends compte maintenant que mes amies les plus proches sont peut-être celles que j'ai eues après avoir eu des enfants, parce qu'on a créé une relation peut-être de partage avec des liens un peu plus forts que ceux que je peux avoir avec mes amis d'enfance qui ont eu parfois des enfants avant moi, et du coup ça nous a un peu séparés pendant un moment. Après, il se trouve que sur Instagram, je partage mon quotidien avec mes enfants et qu'il y a beaucoup de gens qui craquent, notamment sur mon bébé. Et je vais être honnête, dans mon quotidien, ça me facilite beaucoup de mise en relation avec des gens. Parce que les gens me connaissent, ils connaissent mon environnement familial, ils adhèrent à ma mentalité. Et c'est beaucoup plus facile d'entrer en relation avec quelqu'un quand on est un peu en terrain conquis que quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout.
Ça vous a beaucoup aidé de rencontrer toutes ces jeunes mamans comme vous, de partager ce que vous viviez, vos galères et vos joies ?
Oui, ça m'a aidé. Alors, je ne l'ai pas beaucoup fait pour la naissance de mon premier, mais je l'ai fait un peu après. Et oui, effectivement, ça aide d'avoir des conseils. Alors, on dit souvent que bon, y a des conseils qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, mais il y a des conseils qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a pas eu. Et clairement, ça aide beaucoup de savoir qu'on vit tous la même chose. En fait, qu'on n'est pas les seuls à galérer, qu'on n'est pas nuls parce qu'on n'arrive pas à tout gérer. Je pense que ça aide de relativiser, de prendre du recul, ça aide toujours.
Par rapport à ce que vous dites de votre mari, qu'il faut que vous lui demandiez, le fait de communiquer comme ça sur vos besoins, est-ce que ça a été quelque chose de très facile pour vous ou plutôt un apprentissage ?
Ça n'a pas été évident parce que je pense que comme pour tout le monde, en fait, ce rôle de je suis mère et je fais tout et je suis Wonder Woman et je gère, c'est un rôle assez complexe pour la femme parce que quelque part, ça nous rend assez fiers. Et en même temps, ça nous épuise, en fait. Donc, j'ai mis un peu de temps et j'ai dû casser quelques barrières pour comprendre que non, j'étais pas parfaite, que non, j'allais pas pouvoir tout faire toute seule et que oui, ça m'épuisait et que, en fait, même si je faisais tout toute seule, l'état dans lequel j'étais à la fin de ça n'était pas positif. Donc, clairement, il allait falloir demander de l'aide.
À qui vous avez ou à quoi vous avez demandé de l'aide ?
Bah, moi, à mon mari. Non, après, moi, j'ai de la chance de côtoyer du coup pas mal de spécialistes de l'enfance maintenant qui me donnent des conseils, à qui je peux parler quand j'ai des petites questions sur le sommeil ou sur les angoisses de mes enfants. En fait, j'ai recours très facilement même à des psychologues, à des psychiatres. Je pense qu'on a de la chance d'être dans une société où l'aide est de plus en plus acceptée. Et je pense que si en parlant à quelqu'un ou en prenant juste un rendez-vous, on peut débloquer quelque chose qui nous empêche de dormir ou qui empêche les enfants de s'épanouir, bah c'est génial et il faut le faire en fait. Il faut arrêter de penser que soi-même, on peut trouver la réponse à tout et accepter que parfois, il faut s'en remettre à quelqu'un d'autre qui, en deux minutes, va nous dire bah, voilà le problème et voilà ce qu'il faut faire. Alors, ce n'est pas toujours aussi facile, mais qui, en deux minutes, peut résoudre une situation très complexe quoi, pour nous.
Donc, en tout cas, tous ces avis d'experts, c'est quelque chose qui vous nourrit et qui vous aide dans votre quotidien.
Ah oui, j'en ai besoin, ouais. J'en ai besoin au quotidien.
Aujourd'hui, Amandine, est-ce que vous diriez que vous avez trouvé un équilibre ?
Je pense que l'équilibre, il n'est jamais parfait, mais j'arrive à faire ce qui me plaît. J'arrive à être 100% là quand je suis avec les enfants. J'arrive à m'épanouir dans ma vie professionnelle. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je suis hyper heureuse de réussir à faire tout ce que je fais. Et voilà, après, il y a toujours des hauts et des bas. Globalement, je dirais que je suis quand même très heureuse de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui.
Merci beaucoup, Amandine. Je vous propose maintenant qu'on rejoigne notre experte dans le salon d'à côté, Marjorie Molines. Bonjour Marjorie Molines, vous êtes coach en parentalité, créatrice de 9 mois et plus. Vous êtes formée à la discipline positive, à la pédagogie Montessori ainsi qu'aux fleurs de Bac et vous accompagnez les parents afin de les aider à mieux vivre leur parentalité et leur quotidien. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne des femmes, des mères, pour lesquelles cette nouvelle identité de mère n'est pas toujours simple à intégrer. Et puis pour d'autres, au contraire, c'est, comme Amandine vient de nous le dire, l'opportunité de beaucoup d'ouverture et de beaucoup de changements. Et parfois, en tout cas, même malgré cette ouverture, c'est pas forcément simple de s'affirmer, de s'écouter, de faire de la place à ses besoins. En tout cas, cette question de l'équilibre entre toutes les identités, femme, mère, vie professionnelle, pour certaines aussi l'identité politique, de l'engagement, du militantisme, est un véritable enjeu. Donc comment s'y retrouver sans perdre une de ces identités essentielles à son bien-être? C'est la question à laquelle vous avez essayé de nous aider à réfléchir aujourd'hui, Marjorie. Pour Amandine, donc devenir mère a toujours été une évidence, en tout cas un peu dans ce que j'ai entendu de ce que vous nous avez partagé. On a déjà parlé de ce processus psychique du devenir parent dans un des premiers épisodes de parentalité, les bouleversements psychiques de la grossesse. Marjorie, qu'est-ce qui se passe au niveau identitaire au moment où la femme devient mère ?
Alors c'est sûr qu'avec la maternité, la femme, elle vit un véritable bouleversement identitaire, alors avec une vraie perte de repère, puisque déjà, la nouvelle maman... Eh bien, c'est plus seulement la fille de sa mère, mais elle est mère à son tour. Donc forcément, ça peut réactiver des choses qui sont parfois douloureuses de sa propre histoire, de sa propre enfance. Il y a évidemment tous les bouleversements corporels qu'on a bien en tête au cours de la grossesse et puis de ce qui va se passer aussi après, parce que la grossesse, il faut quand même être clair, ça laisse des traces aussi physiquement. Donc ça peut être aussi l'occasion de réveiller ou de révéler de nouveaux complexes qui peuvent avoir des impacts dans le couple, dans la vie sexuelle. Il va y avoir, Amandine nous en a parlé, un bouleversement au niveau du couple, parce que le couple des plus deux va devenir trois, voire 4, 5, à chaque naissance, il y a un nouvel équilibre dans le couple à trouver, au-delà de sa propre place en tant que parent. Et puis, le dernier bouleversement dont on parle moins, mais pourtant qu'on connaît et pour lesquels on a maintenant des images à l'appui, c'est tous les bouleversements physiologiques qui vont se passer au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'au cours de la grossesse, il y a certaines parties du cerveau qui vont s'activer et d'autres qui vont se mettre en veille. Il y a vraiment un recablage au niveau du cerveau et ça, c'est juste fabuleux. C'est vraiment la nature qui est bien faite puisque ça va permettre à la maman d'être 100% disponible pour son bébé quand il va arriver et qu'il va avoir totalement besoin d'elle. Et elle, pendant ce temps-là, de se mettre un peu en retrait sur sa propre vie et ses propres besoins pour pouvoir se consacrer à cet enfant. Donc effectivement... La maternité, c'est un vrai bouleversement identitaire. Alors après, il va y avoir des degrés différents pour chaque femme.
Vous, Amandine, la première fois que vous êtes devenue mère pour votre fils, comment ça s'est passé justement par rapport à tous ces bouleversements pour vous ?
Alors, ça s'est passé très mal. Je pense que j'ai pleuré pendant 3 mois à la naissance de mon fils parce que je me suis sentie très seule. Vis-à-vis de ça, je vous l'avais dit quand on avait préparé le podcast, je trouve qu'on prépare à l'accouchement, mais on ne prépare pas du tout à l'après. Et moi, je m'étais retrouvée à rappeler la clinique où j'avais accouché en disant « Oui, je ne comprends pas, mon enfant pleure, je ne sais pas quoi faire. » Et évidemment, les infirmières me disaient « Bah, débrouillez-vous, quoi. Il est à vous maintenant, on vous le laisse, débrouillez-vous. » Alors moi, mon fils avait un RGO assez fort, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Personne ne m'en a parlé et j'ai passé un été où j'étais descendue dans le sud parce qu'on avait une maison là-bas, pas toujours du coup avec mon mari, à galérer, à pas savoir quoi faire, à me faire vomir dessus 5 fois par jour, à pleurer toutes les larmes de mon corps de fatigue. Et voilà, je me suis sentie seule, incomprise, perdue. À la fois cet enfant, je le voulais et j'étais heureuse, j'étais hyper heureuse de l'avoir, mais j'étais perdue. Et déjà à l'hôpital, je me souviens qu'il était allongé sur moi et le pauvre faisait des sauts, des bonds parce que je pleurais en fait. Donc j'avais des... il était en train de faire des petits bonds sur mon ventre parce qu'à la fois j'étais hyper heureuse et il était collé contre moi et j'étais vraiment la plus heureuse du monde. Et en même temps, il est né avec 5 semaines d'avance et il était tout petit. Et mon mari n'était pas là parce qu'on était en cours de déménagement. Et en fait, notre nouvel appartement n'était pas prêt du tout. Donc, le jour de mon accouchement, je suis partie de chez mon père parce qu'on vivait temporairement chez lui. Et bah, du coup, à ma sortie de clinique, j'étais censée arriver chez nous. Donc voilà, j'étais à la fois la plus heureuse du monde et à la fois la plus perdue du monde, je pense.
Comment, vous dites, vous avez pleuré les 3 premiers mois. Comment après, voilà, les choses se sont reconsolidées, si on peut dire, pour
après,
vous ?
Je pense que ça se met en place naturellement parce qu'au bout de 3-4 mois, l'enfant commence à avoir, enfin le bébé commence à avoir des rythmes un peu plus réguliers avec la diversification, les RGO... se régule un petit peu, donc ça a commencé à aller mieux. Puis c'est peut-être aussi le moment où moi je suis rentrée à Paris du coup avec mon bébé, donc j'ai peut-être été un peu plus entourée, j'ai eu un peu plus de conseils, j'ai changé de docteur aussi parce que j'avais un docteur un peu old school qui du coup me disait bah changer de lait. Donc je pense qu'au bout du 50e changement de lait, je n'en pouvais plus, épaississez-le, désépaississez-le. En fait, c'était pas ça le problème, c'est qu'il avait besoin d'être traité. Et je pense que ça m'a aidé aussi de me rapprocher de personnes aptes à me soutenir et me donner des conseils.
Et au niveau corporel, voilà, est-ce que il y a eu des choses particulières dans ces changements physiques pour
Non,
vous
en fait, moi, j'ai toujours rêvé d'être enceinte et d'avoir des enfants. Donc, j'ai toujours adoré mon corps enceinte, même si je prenais entre 20 et 30 kilos à chaque fois. Après, j'ai la chance d'être grande, donc ça se répartit. Ça se voit peut-être moins que sur une personne un peu moins grande. Et en fait, en général, j'ai beaucoup de stress et je suis très active pendant les premiers mois des enfants. Et du coup, je perds assez rapidement sans vraiment m'en rendre compte. Je sais qu'au bout de 6-8 mois, j'aurais perdu mes kilos. Donc ça, c'est pas vraiment un sujet chez moi. Je sais que c'est salé chez d'autres, mais vraiment chez moi, c'est pas un... Puis voilà, enfin, le corps qui change, ça fait partie de la maternité. Et pour moi, la maternité, c'est vraiment... un bonheur intense, donc je me regarde pas et puis c'est tout. J'attends que ça passe.
C'était quelque chose auquel vous vous étiez préparée justement à ce corps qui allait changer, que peut-être voilà, ça serait pas toujours très confortable, mais que ça allait passer.
Non, mais je suis pas quelqu'un de très centré sur mon aspect physique. En fait, je me regarde pas très souvent, je me maquille pas. Alors, je vais pas vous mentir, évidemment que je fais attention à la manière dont je m'habille. Évidemment que parfois je me demande si je suis jolie. Hein. Je suis pas un extraterrestre, mais je suis pas quelqu'un qui me regarde tout le temps dans le miroir pour me demander si mes fesses sont grosses ou pas. En fait, le plus important pour moi, c'est d'être bien physiquement, c'est-à-dire d'être en forme. Et c'est pour ça que je fais de la gym. Mais c'est pas forcément pour être ultra galbée ou je sens quand je rentre plus dans mes jeans et je prends les mesures nécessaires, mais c'est pas un gros problème pour moi en tout cas.
Donc oui, Marjorie, vous nous parliez voilà de tout ce processus de changement et tous ces bouleversements à la fois physiques, psychologiques, sociaux liés à la maternité et à l'accès à cette nouvelle identité qu'on définit souvent sous le terme de matrescence. Maintenant, comme vous venez de nous le dire, Amandine, voilà, la question du temps pour s'adapter à ces changements est essentielle.
On a le sentiment que c'est tellement naturel d'être parent qu'une fois qu'on a son bébé, bah, ça va rouler, ça va couler de source. Et c'est là où, effectivement, il y a des grosses claques. Quoi. Et pour certaines femmes, c'est des gros... elles vivent ça comme un tsunami parce que non, c'est pas inné. On a d'un seul coup un être qu'on ne connaît pas. On a eu beau le porter pendant 9 mois, il y a une espèce d'extraterrestre qu'on ne connaît pas qui arrive. Donc, il y a besoin de faire connaissance. Et puis, c'est totalement nouveau, je pense... particulièrement pour le premier enfant. L'allaitement n'a rien non plus de naturel quand on veut allaiter son bébé. Il y a vraiment tout un tas de choses à comprendre sur les besoins de cet enfant. Alors, j'en parlais tout à l'heure, les bouleversements physiologiques vont aider la femme à se concentrer sur cet enfant. Néanmoins, on a besoin d'avoir du soutien et c'est pas toujours évident d'avoir ce soutien, de trouver les bonnes personnes à qui s'adresser. Vous parliez de la maternité ou du pédiatre, etc. Des fois, on n'a pas l'écho en face dont on aurait besoin. Et des fois, d'ailleurs, on ne sait pas exactement de quoi on aurait besoin. Peut-être juste de parler, d'avoir une bonne copine à qui parler. Il y a des enjeux qui se créent à ce moment-là aussi, peut-être pour certaines femmes, de rivalité un peu avec la mère. Enfin, voilà, de tous les bons conseils qu'on nous donne, où là, on n'en peut juste plus. Donc, c'est cet équilibre, oui, qui, les premiers temps, est vraiment difficile à vivre. Alors, encore une fois, ça dépend des femmes et... la matrescence dont vous parliez tout à l'heure, c'est vraiment un phénomène dont on ne parle pas suffisamment. La matrescence, juste en deux mots, c'est finalement la crise d'adolescence de la femme qui devient mère. Hein. Donc, comme toute crise d'adolescence, ça peut être plus ou moins intense et plus ou moins bien vécu. Mais ce qui est important déjà, c'est de le savoir pour pouvoir se déculpabiliser, de se dire... finalement, ce que je vis, c'est parfaitement normal. Et puis ça va durer, mais... sur un temps limité, c'est pas, j'en prends pas pour toute la vie, voilà, c'est une période, donc il faut pouvoir se rassurer là-dessus aussi.
Dans les femmes que j'accompagne, il y a certaines femmes qui soulignent beaucoup cette question du renoncement par rapport à la vie d'avant, de la frustration. Alors pour vous, Amandine, ça n'a pas du tout été le cas, mais beaucoup de femmes voilà, soulèvent cette question.
Oui, on renonce à sa vie d'avant, hein. Bien sûr, quand on devient parent, bien, on renonce à sa liberté, à la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut, quand on n'est pas au travail, bien sûr, d'avoir du temps pour soi quand on en a envie. Donc c'est vrai que ça peut être très déstabilisant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que devenir parent, c'est vraiment un cheminement, c'est une étape avec... des questionnements, des remises en question, des doutes, une nouvelle organisation à trouver, des équilibres aussi à trouver. Donc les choses évoluent, elles sont en mouvement permanent et la responsabilité d'être parent peut être effectivement vertigineuse et susciter pour beaucoup de l'inquiétude, des angoisses. Bon, dans ce cas-là, de toute façon, il ne faut pas hésiter si ça devient vraiment lourd à se faire accompagner, de demander de l'aide, etc. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les choses vont se mettre en place progressivement. Et puis, c'est vrai que comme tout choix, hein, quand on devient parent, on a fait le choix de devenir parent. Donc, faire un choix, c'est aussi renoncer. Donc, oui, il y a des caps à passer, c'est sûr.
Tout à l'heure, Amandine, quand vous disiez voilà, qu'on ne vous avait pas préparé à l'après, de quoi vous pensez que vous auriez eu besoin ?
Bah, c'est ce que vous disiez déjà, nous dire que ce n'est pas forcément naturel, qu'il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne va pas savoir faire et peut-être nous dire qu'il y a des gens qui peuvent être là pour nous aider, pour nous donner des conseils et qu'il ne faut pas hésiter à les contacter.
Donc finalement, là, vous dites de démystifier un peu l'image de la maternité. Ouvrir la porte que chacune va le vivre à sa manière, avec ses difficultés, ses joies, ses forces, et que c'est OK.
Voilà. C'est pas grave si à un moment, on n'arrive pas à tout gérer. Et c'est pas grave si à un moment, on a besoin d'aide. Et c'est pas grave si on a besoin de demander de l'aide aussi à son mari.
Du coup, ça nous amène à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Amandine, sur la question de la charge mentale, dont on parle beaucoup, où les femmes se retrouvent à gérer beaucoup de choses, la vie professionnelle, les enfants, la vie domestique, un conjoint. Quels peuvent être les outils, Marjorie, que les femmes peuvent mettre en place pour s'alléger un peu leur charge mentale, ou en tout cas mieux la vivre ?
Oui, alors Amandine, encore une fois, nous l'a bien expliqué. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, la charge mentale, elle repose énormément sur les épaules de la femme, aussi bien sur la partie responsabilité en tant que parent, plus la vie de femme. À un moment donné, cette partie de la vie de femme ne doit pas être négligée. Tout à l'heure, on parlait de la matrescence, où on se consacre à son enfant, etc. Mais à un moment donné, d'abord, l'enfant va commencer à devenir de plus en plus autonome. Et la maman va avoir besoin aussi de se renouer avec son identité de femme. Et c'est extrêmement important pour son équilibre. Et c'est là où on va retrouver effectivement toute la charge mentale avec la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie de couple et la vie de parent. Alors pour s'alléger, je dirais que la première chose, c'est un travail sur les émotions. Aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup des émotions pour les enfants. Hein, c'est quelque chose de... Enfin, c'est évident, prendre soin des émotions de nos enfants, mais c'est tellement évident. Sauf que les parents aujourd'hui, est-ce que dans leur propre enfance, on leur a parlé des émotions, que ce soit à la maison ou à l'école ? Il y a fort à parier que non. Si votre enfant veut, je ne sais pas, par exemple, apprendre à parler l'espagnol et vous demande de lui parler espagnol, si vous n'avez jamais appris à parler espagnol, vous n'allez pas pouvoir lui parler espagnol. Donc, si vous n'avez jamais été sensibilisé à vos émotions, ça va être compliqué de l'aider à l'accompagner sur ses émotions. Donc, pour revenir à la charge mentale, c'est la même chose. Il va y avoir à un moment donné, pour pouvoir s'alléger sur cette charge mentale, il va falloir commencer par la base. Et la base, ça va être se reconnecter à ses émotions. Donc, se reconnecter à ses émotions, c'est en prendre soin et c'est prendre soin aussi des ressentis physiques qui sont associés aux émotions. Parce que les émotions, elles sont toujours liées à des ressentis physiques. Si je prends l'exemple de la peur, si vous avez par exemple un rendez-vous important, vous avez des appréhensions, vous allez peut-être avoir des tensions dans les épaules, les mains moites, la gorge nouée, etc. Ce sont les ressentis physiques qui sont liés à ses émotions. Donc ça, c'est une première piste pour se reconnecter à ses émotions quand on n'a jamais vraiment été sensibilisé à cette question.
Donc passer par ce qu'on ressent physiquement pour pouvoir décoder l'émotion. Ouais. Amandine, est-ce que c'est quelque chose que vous faites ?
Alors, je ne le fais pas, mais je sais que je ressens des émotions quand, par exemple, je ne dors pas de la nuit parce que mon fils n'a pas eu de place en garderie. Je sens bien que je ressens une émotion et que peut-être que cette émotion est un petit peu forte par rapport à la situation et que peut-être qu'en tant que mère, on ressent ces choses de manière beaucoup plus forte que mon mari qui dort à côté et qui n'en a clairement rien à carrer, que mon enfant n'ait pas de place en garderie. Je ne sais pas, moi j'ai réalisé que peut-être qu'il y avait des choses qui se jouaient aussi par rapport à moi, par rapport à mon enfance, par rapport au fait que comme vous disiez, nous on avait moins de place pour nos émotions, peut-être qu'on avait moins d'attention. J'ai réalisé que cette angoisse, en tout cas dans cet exemple-là, vis-à-vis du fait que mon bébé n'avait pas de garderie, que du coup il n'allait pas s'épanouir, que du coup il n'allait rien apprendre, c'était un phénomène qui se jouait en fait juste par rapport à moi et par rapport à mon passé. Et que peut-être que je devrais également prendre exemple sur mon mari qui s'en fiche. Et que peut-être que, en fait, moi-même, je pourrais alléger toute seule ma charge mentale de temps en temps. C'est comme, je ne sais pas, quand mon mari doit gérer les enfants le week-end, peut-être qu'il le fait en étant moins impliqué que moi et qu'au final, ça le fatigue moins intellectuellement que moi parce que, voilà, il va être moins à 100%, il va peut-être être moins lui-même réceptif aux émotions des enfants et peut-être qu'au final, alors je dis pas qu'il faut pas du tout l'être, mais peut-être qu'au final, lui, ça va moins lui coûter que moi d'être avec eux 100% du temps. Mmh. Donc peut-être que, enfin, je pense que la charge mentale, elle est là, elle existe, c'est clair. Mais que peut-être que c'est aussi quelque chose que parfois on s'inflige à nous-mêmes de manière plus importante que ça devrait l'être.
Oui, oui, tout à fait. C'est très intéressant d'en prendre conscience. C'est ça qui est important. C'est aussi d'arriver à prendre du recul et à relativiser. Mais une autre façon, effectivement, de se reconnecter à vos émotions, c'est de trouver l'élément déclencheur. Hein, là, l'exemple typique de la garderie, ça, c'est effectivement important. Mais ça peut être aussi des anecdotiques au quotidien. Ça peut être... Vous rentrez chez vous et puis donc après en fin de journée vous avez quand même la fatigue de la journée, puis vous rentrez chez vous, vous apercevez que le petit déjeuner n'a pas été débarrassé, que le salon est rempli des jouets de vos enfants, etc. Et ça peut être déjà générer un micro agacement en fait. Et puis au fur et à mesure de la soirée, forcément, il va y avoir d'autres micros agacements. Qui, à un moment donné, mis bout à bout, il va y avoir le énième non de trop ou la remarque ou l'attention qui n'est pas là, etc. Et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et puis ben voilà, ça va cristalliser d'autres choses. D'où vraiment, effectivement, l'importance de pouvoir renouer comme ça avec ses émotions.
C'est le fait de les identifier, selon vous, Marjorie, ça permet justement de vider le vase avant et d'éviter qu'il déborde.
Ouais, exactement. De pouvoir déjà en prendre conscience pour soi. Et puis, quand on arrive à du coup, mettre des mots, et on va peut-être pouvoir aller faire un micro-break pour laisser la tension redescendre. Et puis, c'est aussi le dire. Moi, là, c'est juste pas possible, quoi. Il va falloir que je m'isole un petit peu pour redescendre, pour que la soirée puisse bien finir.
Donc, oui, en discipline positive, on parle du temps de pause.
Ouais, exactement. Oui, oui, c'est ça. À un moment donné, pour que les émotions ne prennent pas le pas sur nos comportements, mais il faut vraiment y être sensible. Et ça, au cours de notre enfance, on ne nous a pas appris à fonctionner comme ça. Alors, on le fait maintenant, naturellement, pour nos enfants. Alors, pourquoi pas le faire aussi bien avec nous-mêmes ? C'est tout simplement cet enjeu-là dont il faut reprendre conscience aussi. Ouais.
Alors, une fois qu'on a identifié ces émotions, ce qu'on ressent, ça permet souvent d'aider à l'identification de ses besoins. Donc là, ça va rejoindre la question de l'affirmation de soi. C'est comment, une fois qu'on a identifié, comment on met en action finalement.
Pareil, Amandine tout à l'heure nous en a bien parlé, la communication au sein du couple. Parce que c'est ça, une fois qu'on a renoué avec ses émotions, on va effectivement mieux comprendre ce dont on a besoin et ce qu'on va pouvoir accepter ou pas. Et donc, fixer ses limites, poser ses limites. Et c'est ça, hein, affirmer, c'est s'affirmer, l'affirmation de soi, c'est aussi savoir dire stop, savoir dire non. Et donc ça va passer par la communication. Et la communication au sein du couple, effectivement, c'est un élément clé, mais on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça de communiquer au sein du couple. Et moi, dans mon quotidien avec les clientes que j'accompagne, et d'ailleurs, Amandine en a parlé tout à l'heure, j'ai identifié 3 cas vraiment que je rencontre très fréquemment. Alors, le premier cas, c'est la maman que j'appelle Cendrillon. C'est celle qui aime vraiment faire plaisir. Et donc, qui dit oui. Qui dit oui pour faire plaisir. Parce que quand elle va dire oui, elle ne va même pas prendre le temps de savoir si ça lui convient, si c'est juste pour elle ou pas. Donc, le revers de la médaille avec ce mode de fonctionnement, c'est qu'à un moment donné, elle va forcément ressentir de la frustration, voire de la rancœur. Parce qu'en échange, quand même, elle attend peut-être un merci, un geste, une attention, qui ne viennent pas. Voilà. Donc ça, c'était le premier cas assez fréquent. Et le deuxième cas dont Amandine a parlé, c'est la maman qui est en mode warrior. Je gère. Voilà, je gère. J'assure sur tous les fronts. Je n'ai pas besoin de demander d'aide. Je me débrouille. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, voilà, il y a la fatigue qui arrive, que ce soit la fatigue physique ou même la fatigue mentale. Mais là encore, parfois, cette maman, elle n'entend pas toujours cette fatigue. Et elle va continuer. Elle va continuer, sauf qu'à un moment donné, le revers, là aussi, c'est qu'elle va devenir irritable. Elle va avoir moins de patience. Elle va s'énerver plus facilement. Donc, voilà, tous ces exemples montrent que, la difficulté de communiquer après au sein du couple. Et puis, il y a un troisième cas qui est assez fréquent aussi pour les femmes, enfin d'ailleurs qui n'est pas incompatible avec les deux cas précédents, c'est le cas du conjoint qui n'est pas particulièrement coopératif. Il peut y avoir différentes raisons. Ça peut être parce que le conjoint, on ne l'a pas sollicité en imaginant que par lui-même, il va y penser.
Le mythe.
Oui, mais c'est un mythe d'ailleurs sur plein d'autres choses, où on pense que l'autre sait, que
on l'autre suppose que l'autre va bien sûr
deviner comme par magie, que si on n'exprime pas son besoin ou son attente, l'autre ne peut pas le deviner.
Et puis vous imaginez facilement les quiproquos et puis les frustrations, les tensions que ça génère, Ça, c'est vraiment le cas, un cas assez classique. Et l'autre cas, c'est lorsque finalement le conjoint il fait pas parce qu'il sait pas. Il sait pas changer une couche. Alors vous me direz, la maman elle est pas née avec un mode d'emploi non plus, mais il ne sait pas, il se sent gauche, il ne sait pas faire un repas, il ne sait pas lancer une machine, peut-être. En fait, tout simplement parce qu'il n'a pas appris. Alors, Amandine, elle hésite un peu. Non, mais...
On a le même cas à la maison, mais je veux dire, au bout d'un moment, moi non plus, je ne savais pas changer une couche, moi non plus, je ne savais pas lancer une machine. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, parce que mon mari me le dit très, très souvent, et j'avoue, je prends ça plus comme une excuse que, comme
c'est
un fait.
C'est tout
parce
à fait possible, bien sûr.
Du coup, je lui dis, mais moi, en fait, j'adore ça, changer des couches, j'ai un diplôme en changement de couche. Un jour, d'ailleurs, mon mari m'a dit, mais comment tu as appris à recoudre un bouton ? Et je l'ai regardé, j'étais, écoute, j'ai fait une école, un diplôme en 3 mois, apprendre à recoudre un bouton. Non, tu prends un fil, tu prends une aiguille et tu recoudes ton bouton, t'arrêtes de nous.
Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour réussir à faire en sorte que la communication se passe bien, oui. Des fois, chacun va trouver ses stratégies. Alors, effectivement, l'humour, ça marche très, très bien. Après, ce qui peut être aussi une porte d'entrée, c'est de les impliquer comme on le fait avec un enfant, c'est-à-dire qu'on va faire avec eux pour un repas. Les repas, c'est quand même au niveau de la charge mentale, c'est quand même du lourd, Entre le menu, faire les courses, faire le repas, c'est vraiment un gros morceau. Donc ça, c'est quand même important aussi que le conjoint puisse mettre la main à la pâte peu importe à quel niveau, c'est après au couple de voir comment il s'organise, mais en tout cas, l'embarquer avec soi pour après pouvoir lui déléguer des choses.
Là, je pense à un couple que j'accompagne. Ils ont fait un tableau où, dès que le mari étendait la machine, il pouvait mettre une petite croix.
Comme les enfants. Il avait un petit gâteau à la fin. Ou...
Mais ça a marché.
Non, mais c'est ça. Après, à chaque couple, de trouver son fonctionnement et de trouver en tout cas une communication qui soit fluide. Parce que pour pouvoir... partager ses difficultés, sa charge mentale, ses émotions, etc., il y a besoin que la communication elle soit saine au sein du couple. Et c'est vraiment pas toujours évident. Mmh. Alors là, on en rit, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont tellement cocasses, mais ça peut être lourd quand même. Mmh.
Quels peuvent être les petits tips, justement, pour mieux communiquer ?
Bah déjà, faire ce travail d'exemple, par exemple, entre Cendrillon et la Warrior... Est-ce que ça donne des idées de, ah oui, c'est vrai que moi, j'ai du mal à demander de l'aide. Est-ce que j'ai du mal à dire non? Est-ce que j'ai du mal à mettre mon conjoint à contribution? C'est s'interroger sur son mode de fonctionnement, déjà. Ça, c'est fondamental. Mmh. Prendre le temps de prendre du recul sur les situations.
Mmh. Oui, donc ce temps d'évaluation, un peu près, j'ai envie de dire, diagnostic de ses émotions, de ses besoins, de ses limites, c'est un passage important pour ensuite pouvoir mettre des choses en place.
Oui, tout à l'heure je disais, être parent, c'est vraiment un cheminement et ça passe par donc des introspections, une réflexion sur soi.
Par rapport à la répartition des tâches, et dans les couples que j'accompagne souvent, il y a cette idée qu'il faudrait que ça soit 50-50.
Il n'y a pas une règle d'or. Encore une fois, il faut trouver une répartition qui soit juste pour chacun des conjoints. J'insiste, c'est pour chacun des conjoints. Alors, ça ne va pas forcément être une répartition 50-50. Il faut que ça convienne à chacun. Et ce qui est important d'inclure là-dedans, ce sont des moments pour soi. Amandine en parlait aussi tout à l'heure. C'est que ça fait partie aussi de ce qui va permettre d'alléger sa charge mentale et de... se libérer un peu toutes ces émotions qui peuvent être envahissantes, c'est d'inclure pour chacun des conjoints à nouveau du temps pour soi, pour se faire du bien, parce que ces moments... Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont du mal à s'accorder du temps pour soi parce qu'elles vont vite tomber dans la culpabilité en se disant oh « Non, mais moi, j'ai pas le temps. Déjà, je passe pas assez de temps avec mes enfants, donc je vais pas en plus me prendre du temps pour moi. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce besoin, il est vital pour elles, pour leur propre équilibre, mais du coup aussi pour l'équilibre avec les autres, avec leurs enfants et avec leurs conjoints.
Oui, donc ce temps, il est essentiel et il peut être différent pour chacun. Amandine, vous disiez un massage de temps en temps, faire du sport, mais voilà, ça peut prendre d'autres formes.
Absolument, et puis alors là, c'est très personnel. Pour certaines, ça va être aller boire un verre entre amis, d'autres, ça va être lire un livre, faire une séance de yoga. Ça, c'est très personnel et à chacune de savoir ce qui lui fait du bien. Mais avoir bien en tête... que ce besoin, il est indispensable pour leur équilibre. Mmh. Et que ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Parce qu'on le confond souvent avec de l'égoïsme, alors que pas du tout. C'est au contraire prendre soin de soi pour prendre soin des autres mieux en étant disponible. Tout simplement.
J'invite souvent mes patientes à prendre rendez-vous avec elles-mêmes, à le noter dans l'agenda, parce que souvent on se dit oui, je vais prendre entre le dîner et le bain un temps pour moi, mais s'il n'est pas posé et formalisé, ce temps-là, bah, finalement, il passe à la trappe.
Ah, bah ça devient la variable d'ajustement. Hein. On a pris du retard dans le timing, bon, bah tant pis, pour moi, quoi. Bah non. Il est non négociable. Puis c'est même bénéfique dans la relation avec les enfants. C'est-à-dire que c'est important aussi de pouvoir nouer des liens avec le père.
Donc oui, avec chacun des parents, d'avoir des temps aussi individuellement privilégiés avec l'un ou l'autre.
Exactement.
Là, je pense à des patientes qui, dans cette difficulté à prendre du temps pour elles, c'est aussi la difficulté de laisser les enfants au conjoint, justement. Parfois, la difficulté autour de la confiance ou l'envie que les choses soient faites de telle ou telle manière et que le conjoint, il va pas faire de telle ou telle manière. Voilà, donc cette idée un peu aussi de lâcher prise et de pouvoir accepter que l'autre puisse faire différemment et que c'est pas grave, ça peut être
c'est bien aussi.
Et que ça peut être une richesse pour les enfants.
Absolument, ouais. Parce qu'on n'a pas parlé là encore de tout ce qu'on pouvait transmettre aussi dans ce qu'on... dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre au quotidien. Mais en menant cette introspection, c'est aussi intéressant de s'interroger sur ce qu'on va pouvoir transmettre aux enfants et ce qu'on va pouvoir tisser comme relation avec eux sur le plus long terme. Tout parent, je pense, a envie de développer l'autonomie de ses enfants, la confiance en soi, le sens des responsabilités, l'empathie, le souci de l'autre. Bon, et comment on les transmet, ces valeurs-là aussi? Et si je reprends l'exemple des personnalités Cendrillon, donc on a vu que c'était des personnes qui sont très agréables à vivre, elles sont serviables, et elles vont avoir du mal à dire non, à poser leurs limites et à prendre soin d'elles. Et ça, c'est vraiment important qu'elles prennent conscience, justement, que c'est important pour leur propre bien-être et leur épanouissement, mais c'est aussi important qu'elles puissent apprendre à leurs enfants comment faire pour poser des limites, et donc en montrant l'exemple. Donc ça, c'est vraiment intéressant de...
Oui, donc une maman en mode Cendrillon va transmettre le message qu'il faut tout accepter, qu'il n'y a pas de limite, qu'il faut s'oublier.
Voilà, on transmet indirectement, on transmet aussi ce message à ses enfants. On ne leur montre pas comment faire. Donc ça, c'est important. Et puis si on va encore plus loin dans l'analyse, ces femmes qui aiment faire plaisir, c'est qu'elles ont besoin de se sentir aussi appréciées, elles sentent qu'elles sont importantes, qu'elles sont aimées. Mais est-ce que les enfants, est-ce que le conjoint vont comprendre cette attente-là? Ils vont prendre ce qui leur est offert, hein, et puis ça va s'arrêter là. Sauf que, bien sûr, ça va générer de la rancœur, de la tristesse chez maman, voire des tensions qui vont aussi avoir un impact sur la relation avec les enfants et avec le conjoint, qui vont perdurer.
Et ça sera pareil pour le mode warrior?
Le mode warrior, oui. Alors, c'est dans un autre genre. Mais Amandine en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont beaucoup dans le mental, hein, qui vont être dans le contrôle des situations. Elles vont avoir du mal à déléguer et elles vont beaucoup se mettre la pression. Donc, elles n'ont pas l'habitude de s'écouter. Et puis, même si elles sont malades, hein, elles vont continuer à tenir leurs engagements parce que ce sont des personnes hyper fiables sur qui on peut compter et qui vont vraiment continuer un peu en mode petit soldat, coûte que coûte, je continue. Mais sauf qu'à un moment donné, à trop tirer sur la corde, la corde, elle risque de casser. Et donc ça, c'est typiquement ce type de personnalité, avec ce mode de fonctionnement, ça peut conduire à l'épuisement et au burn-out parental.
On en a parlé dans un épisode de parentalité avec Moira Mikola-Jack, qui en effet disait bien que les parents qui font un burn-out parental sont des parents qui sont extrêmement investis, qui sont des super parents et qui se mettent beaucoup la pression.
Oui, sauf qu'ils se mettent pas seulement la pression sur eux. C'est ça le revers aussi de la médaille, c'est que du coup, en étant beaucoup dans le contrôle, il n'y a pas tellement le droit à l'erreur, quoi. C'est beaucoup, tout doit être très bien fait. Elles ont du mal à déléguer parce qu'elles ont aussi du mal à accepter que ça ne soit pas fait exactement comme elles l'auraient fait ou aussi parfaitement qu'elles l'auraient fait. Bon, je pousse le bouchon à l'extrême hein, pour vraiment faire comprendre les difficultés, mais c'est donc que le message qu'on transmet indirectement à son enfant, c'est que on n'a pas le droit non plus de se tromper en tant qu'enfant. Voilà. Donc c'est des enfants, ils ont besoin d'apprendre en se trompant. Puis d'abord, pas que les enfants, hein, les adultes aussi. C'est un moyen d'apprentissage formidable de se tromper. Donc il faut faire attention, au message indirect qu'on renvoie à l'enfant. Et puis c'est aussi du coup une pression énorme qu'on va mettre sur les épaules des enfants. C'est vraiment une forme de compétition un peu là-dedans qu'on peut générer. Donc c'est important de prendre conscience aussi de ce qu'on peut transmettre à travers nos comportements.
Oui, et là, du coup, en fonction de la manière dont, justement, on va gérer ces différentes identités, ces différentes facettes de soi, on envoie un message aux enfants et on leur transmet des outils ou non pour, justement, gérer ces différents aspects-là.
Absolument. Alors là, le but, c'est pas du tout de faire culpabiliser les mamans. Hein. C'est juste de les aider à mettre un peu en perspective leurs difficultés au quotidien pour... Ah oui, d'accord, ok. Un exemple tout bête, plier le linge ou quoi. Si c'est pas exactement plié comme je l'aurais fait, est-ce que c'est vraiment grave? C'est comme ça que l'enfant va apprendre aussi, et c'est comme ça aussi qu'elle va pouvoir déléguer et lâcher un peu prise. Et ça, c'est vraiment assez important, tant pour elle que pour les messages qu'elle va transmettre.
Ouais. Oui, donc faire un peu de l'ordre dans ses priorités.
Absolument, oui.
Merci beaucoup, Marjorie. Donc, comme vous venez de nous le dire, la maternité, c'est une étape dans un chemin de vie. L'équilibre entre les différentes facettes de soi est constamment en mouvement, vous nous l'avez dit aussi, Amandine. Le temps, la gestion de ses émotions, se connaître et mieux communiquer sur ses besoins, ses envies est essentiel pour parcourir ce chemin le plus sereinement possible. Marjorie, je recommande souvent des lectures à mes patientes. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander ?
Un film que j'adore, qui s'appelle « Mon bébé », avec Sandrine Kimberlin. Et alors là, j'avais envie de parler de ça, parce qu'on est un peu hors sujet, parce que là, c'est une maman dont les enfants sont grands. Ils sont partis de chez elle, il lui reste plus que sa petite dernière qui va passer le bac et qui va aller finir ses études. Mais là, c'est une maman qui, au contraire, elle va d'un seul coup se sentir un peu vide, parce qu'elle va, elle voit ses enfants quitter le nid. Donc je trouvais ça rigolo, comme pied de nez, un peu de remettre en perspective, pour bien se rendre compte que, la maternité, effectivement, quand on est le nez dedans, des fois, ça nous paraît vertigineux, même si, bien sûr, on adore. Mais à un moment donné, ça passe aussi très vite. Mmh. Voilà, donc juste remettre un petit peu en perspective. Et puis sinon, il y a aussi un livre de Laurent Gounel que je trouve très intéressant, parce que là, on a beaucoup parlé de s'interroger sur son mode de fonctionnement, sur comment on communique. Et Laurent Gounel a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Je te promets la liberté ». Alors, Laurent Gounel, pour celles qui ne connaissent pas, il écrit des romans de développement personnel. Mais ce sont vraiment des romans qu'on peut lire très facilement. Et celui-là, en l'occurrence, c'est sur les différents types de personnalités. Donc c'est aussi intéressant si on a envie de poursuivre un peu cette réflexion qu'on a pu commencer ici aujourd'hui.
Moi, je recommanderais le livre d'Elisabeth Badinter sur le conflit, la femme et la mère, qui est aussi passionnant sur ces questions-là, qui amène beaucoup à réfléchir. Un très grand merci, Amandine, d'être venue partager avec nous votre quotidien, votre parcours. Les auditeurs peuvent vous suivre sur Instagram, Amandine LW, et via The Reunion, dont vous êtes la fondatrice. Merci beaucoup, Marjorie Molinet. Je rappelle que vous êtes coach en parentalité, créatrice de 9 mois et plus. Merci beaucoup pour tous vos conseils.
Avec plaisir.
Merci à vous.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.